bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre série consacrée aux œuvres de l'esprit et aux outils juridiques qui les protègent, des outils que les législateurs ont affûtés au cours des siècles, depuis les premiers privilèges royaux jusqu'au brevet d'invention en 1791. Le droit qui s'invente alors dans le sillage de la Révolution française vient protéger les découvertes techniques, mais aussi la création artistique. L'esclave imitateur naît et s'évanouit, ce n'est qu'aux inventeurs que la vie est promise. Voilà ce qu'écrit le poète André Chénier à la toute fin du XVIIIe siècle. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire des secrets de fabrication et de leur protection en compagnie de Philippe Minard, historien, directeur d'études à l'EHESS, auteur de La fortune du colbertisme paru chez Fayard. Avec nous également en duplex de Lille, Gabriel Galvez-Béard, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lille et auteur de La République des inventeurs, propriété et organisation de l'innovation en France de 1791 à 1922, un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
La mesure de la propriété a été très bien réglée par la nature, selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d'un homme ne peut être employé par rapport à tout. Il ne peut s'approprier tout. Et l'usage qu'il peut faire de certains fonds ne peut s'étendre que sur peu de choses. Ainsi, il est impossible que personne, par cette voie, empiète sur les droits d'autrui ou acquiert quelque propriété qui préjudicie à son prochain, lequel trouvera toujours assez de place et de possession, aussi bonne et aussi grande que celle dont un autre se sera pourvu, et que celle dont il aurait pu se pourvoir auparavant lui-même.
Gabriel Galvez-Béard et Philippe Minard, bonjour.
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 Nous ouvrons cette émission avec le philosophe anglais John Locke. C'était un extrait de son traité du gouvernement civil, paru en 1690, et lu ici par Romain de Bec de Lièvre. Philippe Minard, pour commencer, en quoi la réflexion de John Locke pose-t-elle les bases de l'idée de propriété, et notamment de propriété de l'invention, qui est notre sujet aujourd'hui ?
L'extrait qui a été lu vient du traité du gouvernement civil, c'est-à-dire d'une œuvre philosophico-politique qui vise qui est considérée comme aujourd'hui fondatrice du libéralisme politique. Et si l'on admet que la société peut s'auto-gouverner, ce qui est le principe du libéralisme, il faut aussi que les membres de cette société puissent disposer de leurs biens et de leurs personnes à leur guise. Donc, chez Locke, il y a cet attachement aux droits des participants de la société et aussi l'émergence du souci de la garantie de leur propriété, de leurs biens. Et la difficulté pour les œuvres de l'esprit, c'est comment les caractériser. Est-ce que on peut considérer que ce sont des équivalents des biens tels que les immeubles, la terre. Et le grand apport de Locke, c'est de donner l'outil pour penser la propriété des œuvres de l'esprit en disant que cette propriété est justifiée par le travail fourni. Les œuvres de l'esprit sont le résultat d'un travail, le produit d'un travail. Mmh. Et donc, à ce titre, elles peuvent devenir objets de propriété et donc deviennent cessibles, deviennent une marchandise en quelque sorte comme les autres. Et ça, c'est tout à fait fondateur parce que ça va bouleverser complètement, pas dans l'immédiat, il faut que le temps que les mentalités évoluent et que les idées bougent, mais ça va être fondateur de la conception de ce que c'est qu'une invention ou une œuvre d'un auteur.
L'invention doit appartenir au propriétaire comme la terre appartient à celui qui le travaille, Gabriel Galvarez-Béard.
Oui, tout à fait. À ceci près que ce débat est vraiment un objet de controverse. Et pour revenir à la question de Locke, ce qui est important de retenir, c'est que le travail fonde une propriété parce que le travail est le prolongement de la personne. Et c'est cette idée que va reprendre, par exemple, un auteur comme Diderot dans sa lettre sur le commerce des livres en 1763. Il reprend quasiment mot pour mot un raisonnement de Locke, mais par exemple un philosophe comme Condorcet ne sera pas du tout d'accord pour assimiler finalement ou pour reconnaître la propriété des œuvres de l'esprit.
Alors comment les secrets de fabrication étaient-ils protégés jusqu'à la Révolution française qui, on va le voir, va constituer un tournant? C'est d'abord Venise qui invente les premiers brevets à la fin du 15e siècle, Philippe Minard?
Oui, la République de Venise en 1474 donne un monopole d'exploitation à l'inventeur d'une innovation, d'une nouveauté, un monopole pendant 10 ans. Mais là où c'est fondateur, c'est que ça prend la forme du privilège. Dans les mentalités de l'époque, la seule forme institutionnelle possible pour donner quelques reconnaissances à l'inventeur, c'est le privilège. C'est-à-dire que c'est une décision de l'autorité politique qui octroie à quelqu'un en récompense des services rendus, et là, les services rendus, c'est l'utilité, et en particulier dans le cas de Venise, l'utilité pour l'arsenal. C'est donc l'autorité qui donne une récompense à quelqu'un. Ce n'est pas la reconnaissance d'une propriété, on n'en est pas là du tout. C'est une gratification.
Et c'est d'ailleurs ce modèle vénitien qui va inspirer le système français des privilèges royaux.
Absolument, et c'est pour ça que dans le système des privilèges en France, pendant tout l'Ancien Régime, il y a l'idée d'un examen des inventions qui sont soumises à une demande et avec une expertise. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide, et c'est ce comité d'experts, ou en tout cas les dirigeants de sa politique économique, ou les inspecteurs des manufactures, parfois, lorsqu'il faut entrer dans des détails techniques, ou des académiciens des sciences. Bref, ce sont les autorités constituées qui récompensent un inventeur considérant que son invention a une utilité pour le bien commun. Et c'est au nom de ce bien commun, qui évidemment est sous les auspices de la monarchie, c'est au nom de cette reconnaissance qu'on peut lui accorder une gratification. Et le privilège, ça peut être un privilège d'exploitation d'un outil, d'une machine, ça peut être, dans le cas d'entrepreneurs, une marque distinctive et des subventions. Tout ça va généralement ensemble, mais c'est une libéralité des autorités politiques.
Et il y a un ouvrage qui va jouer un rôle important pour diffuser l'idée selon laquelle l'invention doit servir le bien commun. C'est l'utopie de la maison de Salomon, décrite par Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide au début du XVIIe siècle. Ça va avoir une influence importante?
Alors, en Angleterre, oui, parce que c'est un mythe tenace. En France, beaucoup moins. L'idéal de Baconien, l'idéal de Francis Bacon, ce philosophe de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, c'est l'idéal de cette utopie de la Nouvelle Atlantide. La maison de Salomon, c'est l'endroit où se rencontrent tous les gens motivés par le bien public, que ce soit des artisans, des savants, des penseurs, et ensemble, dans un esprit d'émulation collective et de reconnaissance collective, ils sont censés faire progresser les connaissances et permettre l'amélioration du sort du genre humain. C'est totalement utopique, et même si les Anglais utilisent beaucoup cette référence, ça correspond pas exactement à ce qu'est le système de reconnaissance qui a été mis en Angleterre en place à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, de façon tout à fait contemporaine, à travers les patentes, les patents, qui sont la forme particulière anglaise de reconnaissance d'une invention, qui n'a rien à voir avec le privilège français.
Alors justement, ce qu'on peut dire des patents, Philippe Minard, c'est que c'est davantage une logique de marché qui prévaut en Grande-Bretagne par rapport à la France?
Tout à fait. Le système qui existe en Angleterre depuis le XVIIe siècle, et dont le système du brevet post-révolutionnaire peut être en partie inspiré, c'est qu'il n'y a pas d'examen préalable. C'est-à-dire que il n'y a pas de certification par les autorités que l'invention fonctionne. Et on ne se préoccupe pas d'un jugement d'utilité ou d'innocuité ou d'efficacité.
Il faut simplement payer pour obtenir une patente.
La patente, c'est simplement effectivement un enregistrement qui est coûteux, très coûteux, ce qui fait que c'est assez sélectif. Et donc, on y réfléchit à deux fois avant de prendre une patente, parce que il faut vraiment qu'on pense pouvoir la rentabiliser. Ça coûte donc très très cher. Et c'est une protection juridique contre les imitateurs, contre les contrefacteurs. Et le gouvernement donc se contente simplement de garantir la paternité d'une invention pour en permettre l'exploitation. Et ça se limite à cela. C'est en quelque sorte, comme on dira au XIXe siècle, sans garantie du gouvernement, SGDG. On ne s'engage pas. On enregistre simplement le fait que ça existe. Et donc, on est dans une logique de marché, en effet. Et là, il y a un contraste très très fort avec le système français du privilège qui est hérité de la matrice vénitienne. C'est tout à fait original et spécifique, c'est le seul pays qui a cela.
Et en même temps, Philippe Minard, est-ce que les privilèges royaux en France échappent tout à fait à la logique de marché, ou est-ce que dans une certaine mesure, on peut déjà y voir les prémices ?
Ah, ça c'est une affaire compliquée. Pendant longtemps, on a peint les privilèges, comme les corporations d'ailleurs, dans une couleur sombre, en reprenant en quelque sorte l'idéologie des révolutionnaires qui avaient voulu se débarrasser de tout cela. Plus récemment, les historiens ont un peu réévalué ça. Et le privilège, à la fin du XVIIIe siècle, est entré dans une forme de logique marchande. C'est à défaut d'autres reconnaissances de la propriété d'une invention, il a bien fallu s'appuyer là-dessus. Vous citiez Diderot tout à l'heure à propos des privilèges de librairie, et on peut s'étonner de voir un libéral, philosophe des Lumières, auteur de l'Encyclopédie, qui a fortement critiqué toutes les limitations, toutes les entraves à la liberté du commerce, qui a fortement critiqué les corporations aussi, voire défendre le privilège d'édition, c'est-à-dire le fait que les libraires de Paris soient les seuls à pouvoir imprimer les ouvrages neufs. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Pourquoi est-ce qu'il défend ce droit d'exploitation et qu'il le présente comme une sorte de droit de propriété littéraire perpétuelle ? C'est parce que c'est le seul outil disponible à l'époque. Faute d'une conception héritée de Locke qui ne s'est pas encore traduite de façon concrète par des mesures institutionnelles, le privilège est le seul instrument pour défendre ce qu'on a fait. Et donc, il n'a pas la coloration aussi négative, aussi sombre, aussi retardataire qu'on
a longtemps décrit. Gabriel Galvarez-Béard, sur cette différence entre la France et l'Angleterre, avec d'un côté peut-être une invention qui est censée servir le bien commun, et de l'autre une logique de marché qui est davantage présente.
Alors, il faut quand même rappeler que lorsque l'Angleterre adopte sa première loi sur les patents, comme l'a dit Philippe Minard au début du XVIIe siècle, en 1624, il y a quand même cette logique de participer au bien commun et d'accorder des patents pour permettre de développer les connaissances, techniques. Ça, c'est quand même un point important. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'adoption de cette loi en 1624, elle se fait, c'est une exception dans une série de mesures qui vont contre les monopoles. Donc on retrouve quelque part cette logique de marché, mais quelque part, la protection de l'invention, c'est une exception dans une logique de marché qu'on veut promouvoir par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une convergence à la toute fin du XVIIIe siècle. Le privilège est en France ou en Grande-Bretagne, est de plus en plus utilisé pour essayer de monter des affaires capitalistiques, pour attirer des capitalistes. Et l'un des grands patents qui va agiter la Grande-Bretagne de la dernier tiers du XVIIIe siècle, c'est le brevet, le patent de James Watt, qui va lui permettre d'asseoir un monopole sur l'industrie de la machine à vapeur, même si ce monopole ne sera pas complet.
Philippe Minard parlait des corporations, ces communautés d'arts et métiers. Or, en 1776, un édit de Turgot, qui est alors le contrôleur général des finances de Louis XVI, décide de supprimer les corporations.
Dans presque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des différents arts et métiers est concentré dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communauté qui peuvent seuls, à l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particulier dont ils ont le privilège exclusif. En force que ceux de nos sujets, qui par goût ou par nécessité se destinent à l'exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir qu'en acquérant la maîtrise, à laquelle ils ne sont reçus qu'après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouvent consommés en pure perte.
Philippe Minard, Turgot décide de supprimer les corporations car il y voit un frein à l'innovation.
Oui, ça c'est toute la rhétorique des penseurs du libéralisme français de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les corporations sont vues comme malthusiennes, fermées aux apports extérieurs, donc comme s'il s'agissait de se refermer sur soi-même pour tout seul profiter de son petit trésor.
En quoi sont-elles malthusiennes ?
Parce que pour entrer dans une corporation, il faut acheter des lettres de maîtrise ou accomplir un chef-d'œuvre, et c'est la corporation elle-même qui décide combien de places elle va offrir ou pas. Donc c'est vrai que la corporation, le vrai nom c'est communauté d'arts et métiers, c'est-à-dire c'est le rassemblement des professionnels qui se sont reconnus entre eux et qui par le processus de la qualification, c'est-à-dire l'apprentissage, puis ensuite une période de travail comme compagnon ouvrier, puis ensuite l'entrée dans la maîtrise. Les corporations donc c'est le groupe fermé des praticiens d'une profession dans une ville. Alors on les accuse de monopole, on les accuse de freiner l'innovation. En fait, la plupart des mots dont Turgot et les autres libéraux les accusent ne leur incombent pas à eux-mêmes, mais viennent du fait que la monarchie les considère comme des vaches à lait et leur impose des tas de choses en termes de taxation. Et elles sont donc contraintes de chercher des ressources et donc de monnayer l'entrée à l'intérieur. Mais bien des travaux ont montré qu'elles ne sont pas si rétives que cela à l'innovation, au changement. Et au fond, ce que Turgot leur reproche apparaît largement infondé et apparaît plutôt une sorte de parti pris idéologique, la corporation étant vue comme la cible la plus aisément atteignable pour établir les principes de ce que les libéraux appellent le doux commerce, c'est-à-dire une loi du marché qui régnerait en maître. Or, les corporations se défendent et vont se défendre contre Turgot et ne disparaîtront pas, même si la monarchie les remanie lorsqu'elles sont rétablies 6 mois plus tard, en août 1776 par Necker. Elles se défendent parce que ce qui leur tient le plus à cœur, c'est la possibilité de délibérer et de décider ensemble pour se fixer ensemble des règles. Et c'est ça que les libéraux ne veulent pas, parce que pour eux, fixer ensemble des règles, quand on est un petit groupe, c'est fausser l'intérêt général. C'est tomber dans l'intérêt catégoriel. Et c'est pour ça que le Chapelier les condamnera en 91.
Voilà, elles sont effectivement définitivement supprimées par la loi Le Chapelier en 1791. Et la Révolution française est le moment où véritablement on va assister à la fois la fin de ces corporations, mais également à la fin des privilèges pour les inventeurs, Philippe Ménard, en même temps que l'abolition des privilèges le 4 août 1789.
Oui, le 4 août 89 est la nuit du 4 août, même si les choses se sont étalées dans le temps, mais ça reste le symbole. La suppression des privilèges est vraiment le grand acte inaugural de la Révolution. Et un historien états-unien, dont le livre vient d'être traduit en français chez Chamballon, Raff et Blaufarb, dans un livre qui s'appelle en français « L'invention de la propriété », parle du 4 août, qui avait déjà précédemment été bien étudié par Jean-Pierre Hirsch de l'Université de Lille. Il parle de la nuit du 4 août comme étant la grande démarcation, c'est-à-dire qu'en s'attaquant aux privilèges, c'est-à-dire à à l'ensemble de ce qu'on appelle le, ce que les gens de l'époque appellent le féodalisme. Ils opèrent une séparation radicale, ce que Blaufarb appelle la grande démarcation, entre le privé et le public. Il n'y aura plus de confusion entre ce qui est la propriété privée et la gestion privée, et puis le politique. Ce qui n'était pas le cas avec les privilèges, puisque précisément le seigneur, c'était celui qui avait le droit de taxer les paysans, celui qui était leur interlocuteur en tant que juge seigneurial. Et il y avait donc une confusion complète des genres. Et ce que la Révolution fait, la grande démarcation, c'est de couper ça. Mais du coup...
Ça n'arrange pas les affaires des inventeurs.
Du coup, les auteurs et les inventeurs se trouvent totalement démunis parce que le moyen qu'ils avaient trouvé de faire reconnaître leur activité et d'en tirer profit... selon eux, juste récompense de l'effort fourni, ce moyen disparaît. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste ? Eh bien, c'est le grand vide et le grand désarroi. Et toute l'année 90-91 va être passée par les constituants à essayer de combler la béance ouverte par la suppression des privilèges.
Et à ce moment-là, il faut citer un personnage important, Stanislas de Boufflay, Gabriel Galvarez-Béart, qui va jouer un rôle justement pour permettre une reconnaissance des droits des inventeurs ?
Oui, tout à fait. C'est lui qui présente en décembre 1790 un rapport à l'Assemblée nationale pour reconnaître et pour adopter une loi reconnaissant le droit des inventeurs. Ce qui est important, et Philippe Minard évoquait la question des auteurs, c'est que en 1790, la question se joue sur plusieurs fronts. Celui des inventeurs, je viens de le dire, mais aussi celui des auteurs dramatiques qui déposent quelques semaines avant les inventeurs une pétition au prix de l'Assemblée pour voir leurs droits reconnus.
Alors justement, expliquez-nous peut-être, Gabriel Galvarez-Béart, pourquoi, comment les auteurs dramatiques étaient rémunérés jusque-là et pourquoi il y a cette fronde qui est menée notamment par Beaumarchais.
Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose d'assez complexe, mais il est vrai que la Comédie française avait eu un monopole de représentation, qu'elle avait donc un rapport de force en sa faveur dans son dialogue avec et dans son pouvoir de négociation avec les auteurs, et que le cas de Beaumarchais le montre très bien. Les auteurs devaient lutter pied à pied pour voir reconnus leurs droits et surtout un droit à une rétribution, tout simplement. Et Beaumarchais, depuis le dernier quart du XVIIIe siècle, depuis 1777 au moins, eh bien lutte pour obtenir la reconnaissance des auteurs dramatiques.
Il fonde en 1777 la première société des auteurs dramatiques.
Tout à fait, la première société des auteurs dramatiques, et c'est elle qui va porter cette volonté de voir reconnu le droit des auteurs dramatiques, et c'est dans son sillage qu'est déposée une pétition en 1790 en faveur des auteurs dramatiques. Et parallèlement, vous avez une société d'inventeurs qui, quasiment au même moment, dépose une pétition auprès de l'Assemblée nationale pour voir reconnu le droit des inventeurs. Donc finalement, c'est la Révolution française et le moment où la revendication en faveur d'une propriété industrielle se déploie.
Et quelles sont alors les discussions qui président à l'établissement de cette loi de janvier 1791 qui sera complétée par une seconde loi en mai, Philippe Minard, pour Boufflay, c'est au public et au marché de juger une invention et non à l'administration.
Alors, il y a cet aspect-là qui est de s'émanciper du jugement préalable d'utilité ou d'efficacité. Et l'argument de ceux qui sont opposés à cet examen préalable, c'est qu'ils considèrent qu'on ne peut pas savoir ce que sera l'efficace d'une invention avant de l'avoir véritablement mise en œuvre. Et puis surtout, on ne sait pas comment évaluer le bénéfice qui en sera tiré. Et donc, il y a un assez grand consensus pour refuser la censure, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que les inventeurs, pendant longtemps, ont dépendu des jugements rendus par les académiciens des sciences, notamment pour l'octroi ou non de leurs privilèges.
Il s'agit de s'affranchir de cette autorité, mais de pas non plus constituer un nouveau privilège.
Il faut pas tomber dans la censure, il faut pas tomber dans le privilège. Mais au fond, toutes les discussions qui sont analogues entre la question du droit d'auteur et puis la question du droit de l'inventeur, et tout ça se joue dans l'année 1791 précisément. Si ces deux choses sont liées, c'est parce qu'on hésite en fond entre deux conceptions possibles de ce que peut être un auteur ou un inventeur. D'un côté, il y a une conception subjectiviste qui voit l'œuvre comme l'expression du génie de son auteur ou de son créateur, et qui est l'expression d'une individualité. Et alors donc, cela amène à dire que l'idée, l'œuvre, la création de l'esprit, c'est la plus inviolable des propriétés privées. Et donc, il faudrait qu'elle soit permanente et éternelle, perpétuelle. Et puis, en face, vous avez une conception plus objectiviste qui dit que l'idée d'un auteur, elle lui est pas venue tout seul, qu'elle est le produit d'un processus de création, d'une expérience qui est fondamentalement sociale et socialisée. C'est la société entière qui, par l'éducation, par l'entraînement, par l'émulation, a pu faire naître chez quelqu'un une idée.
Donc la société doit en retirer un bénéfice.
Et donc la société doit, en aval, retrouver ce qu'elle a investi en quelque sorte. Donc c'est pas du tout la vision inspirée du génie, c'est au contraire une vision plus objectiviste et plus utilitariste aussi. Et donc dans ce cas-là, des gens comme Condorcet vont dire, ben, sous ces auspices-là, l'invention, l'œuvre ne peut pas être appropriée privativement, sinon à travers sa forme particulière. Et donc il va falloir trouver un compromis entre ces deux conceptions-là. Et le compromis, eh ben, ça va être dans la temporalité, c'est-à-dire qu'on va reconnaître à l'auteur ou bien à l'inventeur le droit de tirer profit pendant un certain temps du fruit de son travail, mais comme il doit ce fruit de son travail à l'investissement invisible de la société, il faut qu'il lui rende à la société.
Et c'est pour cela que cette durée va être établie dans un premier temps à 15 ans, Gabriel Galvarez-Béard.
Alors, à 15 ans maximum, parce que vous pouvez prendre à l'époque un brevet pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans. Et le point important, c'est que cette durée, elle est liée au coût du brevet. Le brevet qui est inventé, si je puis dire, en 1791, il est très cher. Si vous voulez avoir un brevet de 15 ans, vous devez payer 1500 francs, ce qui est, enfin 1500 livres à l'époque, ce qui est énorme. Et le point qui est assez intéressant, c'est que alors même que les révolutionnaires ébouflés promet finalement le brevet pour tous les inventeurs, eh bien, le brevet s'avère forcément inaccessible pour beaucoup d'entre eux du fait de son prix.
Et à cause du prix, la nécessité de rentabiliser l'invention apparaît plus importante encore, Philippe Minard. Et c'est peut-être aussi un moyen de sélectionner les inventions qui vont effectivement fonctionner.
Oui, tout à fait. Et de fait, un certain nombre des exclus du brevet ou de ceux qui sont dans la capacité financière d'y souscrire sont les victimes de la chose et protesteront, mais sans effet. Mais la question du prix n'a pas été beaucoup débattue. Bouffelet explicitement veut s'inspirer du modèle anglais et on a donc repris le coût d'entrée élevé, précisément parce que c'est le gage d'une entrée saine dans la compétition économique. On ne veut pas aider des canards boiteux. On veut aider des gens qui seront efficaces. Donc ce qu'il reste de l'industrialisme et du développementisme qui habitait l'administration française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle est là-dedans. Et d'ailleurs, ce sont encore les mêmes personnes autour de Chaptal, par exemple, que l'on retrouve, qui sont les pilotes de cette politique économique.
Et on va voir l'héritage de cette législation dans les décennies qui suivent, on en parle dans un instant.
Far beyond the world of imagination lives a man with the key to creation. He's the greatest inventor of them all. He's the greatest inventor of them all. The greatest inventor of them all. He took a lot of nothing, made it into something. He's the greatest inventor of them all. One day he looked out into space and he saw nothing there. So with a smile upon his face, he blew into the air. Now from this breath a mist did rise and something did appear. Then with a twinkle in his eyes, he called it atmosphere. He's the greatest inventor of them all. The greatest inventor of them all. He took a lot of nothing, made it into something. He's the greatest inventor of them all. Next day he took a burning ball and threw it in the mist. He even made the seasons fall by giving it a twist. Now in his mind the thought was born, this planet has some worth. So blow the trumpet, toot the horn, let's call it Mother Earth. He's the greatest inventor of them all. The greatest inventor of them all. He took a lot of nothing, made it into something. He's the greatest inventor of them all. Hallelujah.
The Greatest Inventor of Them All, The Nat King Cole sur France Culture, d'entendez-vous l'écho. Les historiens Gabriel Galvez-Béard et Philippe Minard sont toujours avec nous pour parler de la protection des inventions techniques. Alors on l'a vu, le brevet d'invention est créé en 1791. Il garantit à l'inventeur un monopole de fabrication qui peut aller jusqu'à 15 ans. Alors quel va être l'impact de cette nouvelle législation sur la création, Gabriel Galvez-Béard? Ça va permettre l'émergence d'un marché des techniques?
Eh bien, paradoxalement, l'impact est très faible au début. Le nombre de brevets est pas beaucoup plus important que le nombre de privilèges qui étaient décernés auparavant. Et il faut attendre finalement les années 1820 à 1830 pour que les inventeurs s'emparent réellement du dispositif. Alors, ça veut pas dire que certains inventeurs n'avaient pas fait. Par exemple, dès 1791, Leblanc prend un brevet pour protéger son invention sur la soude, mais le succès n'est pas tout à fait au rendez-vous.
Et alors, ce qu'on constate, Gabriel Galvez-Béard, c'est que le système même du brevet encourage la personnification de l'invention. C'est le sens de l'ouvrage que vous avez écrit sur la question, avec cette idée qu'on commençait à expliquer, que le droit de l'inventeur est progressivement perçu comme la rémunération d'un contrat passé avec la société.
Alors, oui, notamment à la faveur de la réforme qui interviendra en 1844, où on essaie de repenser justement les cadres de la protection de l'invention, et où on défend l'idée qu'il y a un contrat, un échange entre la protection que la société accorde aux inventeurs et la contribution que les inventeurs apportent à la société. Et on voit bien que finalement, on reste dans des cadres qui sont assez similaires à ceux qui avaient été pensés par les Anglais au XVIIe siècle, ou ceux qui s'affirmeront plus tard.
Philippe Minard, sur cette question.
Il y a quelque chose d'assez intéressant tout de même qui fait penser les gens de l'époque. C'est la contradiction qu'il y a entre, d'un côté, l'affirmation de la pleine propriété d'un régime unique de propriété au moment de la Révolution française. L'individualisme possessif triomphe et on réduit la propriété à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, si ceci est à moi, c'est à moi et j'en dispose comme je veux. Alors que l'Ancien Régime voyait des régimes de propriété différenciés avec la possession qui peut appartenir à un tel, mais des droits d'usage permis aux autres. Cette conception multiple et démultipliée de la propriété a été réduite à une propriété univoque au moment de la Révolution. Et alors se pose un problème. Comment est-ce que, si je reconnais la propriété de quelqu'un sur son œuvre ou sur son invention, comment est-ce que je peux penser que, au bout d'un certain temps, il devra cesser d'en tirer profit?
Ça signifierait qu'il n'y a pas de propriété absolue, qu'il n'y a
voilà.
Que de propriété relative.
Et donc, il a fallu trouver un compromis entre les principes et puis le principe de réalité. Je ne sais pas ce qu'en pense Gabriel Galvez, mais il me semble que la question de qu'est-ce que c'est que qu'une propriété qui, à terme, doit s'évanouir, cela a bousculé un peu les conceptions de la propriété qui avaient triomphé au moment de la Révolution.
Ça crée des débats à ce moment-là, Gabriel Galvez-Béard.
Tout à fait, et il y a deux points à souligner, c'est que d'une part, certains auteurs ou praticiens, avocats, vont refuser cette assimilation du brevet ou même du droit d'auteur à une propriété, et par ailleurs, et ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est que aussi bien le brevet, dans une moindre mesure que le droit d'auteur, vont faire l'objet d'un très grand nombre de controverses, et de controverses d'ailleurs qui vont éclater dès l'adoption de la loi de 1791. La première loi est adoptée en janvier, vous l'avez rappelé, dès le mois de mars, eh bien, certains se soulèvent contre cette loi qui leur paraît complètement incongrue. Et tout le 19e siècle va être traversé par des controverses très forte, allant même jusqu'à réclamer l'abolition du droit de l'inventeur. Et d'ailleurs, dans certains pays, eh bien, cette abolition sera adoptée.
Et alors, quelles sont les améliorations qui vont être apportées par la loi du 5 juillet 1844, justement? Qu'est-ce que cela permet d'améliorer, Gabriel Galvez-Béard?
Alors, il y a une amélioration importante qui est celle de son coût, parce que, alors c'est un peu technique, mais à partir de 1844, vous pouvez payer le brevet par annuité. Et du coup, ça vous coûte 100 francs chaque année, ce qui est beaucoup moins cher que les 500, 800 ou 1500 francs que vous deviez payer d'un seul coup. Et donc, quelque part, cette petite réforme technique va apporter une sorte de démocratisation du brevet d'invention. Ensuite, vous allez avoir d'autres mesures qui vont permettre, par exemple, d'améliorer de manière assez incomplète, il est vrai, la publication ou en tout cas le repérage des brevets. Parce que c'est un point extrêmement important de pouvoir savoir quels ont été les brevets qui ont été pris avant les vôtres pour pouvoir mesurer la validité de votre brevet. En revanche, et ça c'est un point extrêmement important, les brevets d'importation qui avaient été admis par la loi de 1791 et qui permettaient à quelqu'un qui importait une découverte de l'étranger d'avoir les mêmes droits qu'un inventeur, eh bien, ces brevets d'importation sont supprimés. Et enfin, dernier point, on reste toujours dans le cadre du refus de l'examen préalable et les brevets restent accordés sans garantie du gouvernement, l'État refusant de rentrer dans cette logique d'évaluation de l'invention.
Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, le brevet est considéré désormais à partir de 1844 comme une récompense pour services rendus à la société, mais l'administration refuse d'endosser le rôle de discuter du mérite d'une invention, Philippe Minard.
En effet, il n'y a pas d'examen préalable, c'est sans garantie du gouvernement. Mais ce que l'on a chassé par la porte revient néanmoins par la fenêtre, parce que dans certains cas, la question se pose, est-ce que les autorités ne doivent pas s'enquérir de l'innocuité, du caractère non dangereux de la nouveauté et tout ce qui est le secteur de la santé, tout ce qui est le secteur de l'alimentation, la question se pose. Est-ce que vraiment il faut laisser au seul marché la régulation de ces choses-là? Et donc il y a des débats sur quels secteurs peuvent être réellement couverts par cette législation, et notamment la question se pose pour les médicaments.
Et puis le fait que le retrait, que l'État soit en retrait ainsi, Gabriel Galvez-Béard, pose aussi un certain nombre de problèmes. Le fait que l'État ne soit finalement là que lorsqu'il s'agit de juger des contentieux, mais pas en amont.
Alors, c'est juste, mais l'État finit toujours par être là, parce que, comme l'a dit Philippe Minard, il y a parfois un examen clandestin, si je puis dire, des brevets d'invention. Alors, avant même la loi 1844, vous avez certaines instances qui vérifient, regardent, évaluent les brevets de manière un peu occulte, et ça continuera jusqu'au début du XXe siècle, par ailleurs. C'est une chose que j'ai oublié de dire, en 1844, par exemple, le médicament ne peut plus être breveté, ce qui aura une grande influence sur le développement ou les difficultés du développement de l'industrie pharmaceutique française. Alors c'est vrai que durant tout le 19e siècle, l'État prend maintient une sorte de distance par rapport à ça, alors même que d'autres pays progressivement vont assumer finalement un rôle différent dans l'encadrement de la propriété intellectuelle.
Et à quel moment est-ce qu'il sera à nouveau possible de breveter les médicaments ?
Eh bien, 1968.
Donc ça interviendra beaucoup plus tard. Alors c'est intéressant aussi de souligner que la Grande-Bretagne va instaurer un examen préalable au milieu du 19e siècle, Gabriel Galvez-Béard, et la France regarde du côté de la Grande-Bretagne et s'en inspire à ce moment-là.
Alors oui et non, c'est-à-dire déjà que l'examen préalable britannique est un peu léger, si je puis dire. Et puis, et ça c'est une chose qui est extrêmement intéressante dans l'histoire du brevet d'invention, c'est que on adopte des lois, parfois d'ailleurs presque sur un coup de tête, ce qui était un peu le cas en 1791, et il est ensuite très difficile de les modifier. Et à la fin du 19e et au début du 20e siècle, alors que beaucoup d'industriels réclameront cet examen préalable qui donne une certaines qualités au brevet d'invention, eh bien, l'État ne parviendra pas à faire changer le cadre législatif, et donc le droit français restera, consacrera ou continuera de consacrer ce non-examen préalable.
Philippe Minard.
On peut tout de même relever le caractère de compromis assez original et intéressant qu'est la législation française sur les brevets, c'est-à-dire que en obligeant les auteurs à donner une description très très précise de leur invention, à donner les spécifications qui caractérisent leur outil ou leur machine, et en demandant que le Conservatoire national des arts et des métiers, après l'expiration du brevet, en assure la publicité. On retrouve l'idéal baconien de la diffusion des connaissances, de la socialisation des connaissances. Et donc, un compromis assez original a été trouvé entre la rémunération de l'inventeur et puis le partage des retombées d'une invention qui, certes, doit bénéficier à celui qui l'a produite, mais est impensable en dehors du contexte social dans lequel elle est née. Donc, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et en quelque sorte, ce régime se voulait gagnant-gagnant, si j'ose dire. Et c'est un compromis qui est tout de même très très intéressant, auquel on peut réfléchir en termes dans les termes contemporains du débat sur le partage entre ce qui est la reconnaissance du travail accompli par tel ou tel et puis la nécessaire socialisation des connaissances.
Et en même temps, c'est un compromis qui continue à provoquer des débats et des mécontentements, notamment parce que tout au long du 19e siècle, les poursuites judiciaires associées aux brevets ne vont pas cesser d'augmenter, Gabriel Galvez-Béat.
Alors, c'est vrai que dès les années 1820, on se plaint du coût des procès pour trouver que le coût est prohibitif et que les procès, finalement, témoignent à la fois des difficultés qui sont faites aux inventeurs ou aux détenteurs de brevets, mais témoignent aussi de la mauvaise qualité du brevet d'invention, puisque finalement, le brevet n'empêche pas les inventeurs d'être contrefaits et n'empêche pas, finalement, les procès. Il y aura des procès extrêmement important au cours du 19e siècle, autour, par exemple, de la quinine ou d'inventions vraiment importantes, parce que ces procès permettent aussi, et c'est une chose importante, de créer le marché et de, par la résolution des litiges posés par la propriété industrielle, on régule aussi le marché.
Alors, expliquez-nous un petit peu mieux ça, comment on crée ce marché.
Eh ben, je vous donnerai un exemple un peu plus tardif. Hein. C'est le procès qui oppose Bessemer, l'inventeur du convertisseur permettant la production massive d'acier, à Schneider dans les années 1870. Bessemer a vendu son invention à Schneider, qui est l'un des plus grands métallurgistes français. Mais Schneider attend que le brevet Bessemer soit tombé dans le domaine public pour enfin utiliser l'invention. Et comme ça, il fait l'économie du paiement des royalties. Un procès s'ensuit et Schneider s'en sort, si je puis dire, et sa position en sort renforcée. Vous avez d'autres exemples à l'étranger, notamment, où finalement, pour éviter le procès, les industriels se mettent d'accord pour se partager le marché et éviter des procès aux résultats aléatoires.
Allez, on va écouter un dernier texte. Il est signé Émile Zola.
Ce que je vais faire, mon bon ami, mais je vais me remettre au travail. Demain, je recommencerai. Je reprendrai mon œuvre au commencement, puisqu'elle est tout entière à reprendre. C'est bien simple et il n'y a évidemment pas autre chose à faire, vous entendez ? Jamais on n'abandonne une œuvre. S'il faut 20 années, 30 années, s'il faut des vies entières, on les lui donne. Si l'on s'est trompé, on revient sur ses pas. On refait autant de fois qu'il le faut le chemin déjà parcouru. Les empêchements, les obstacles ne sont que des haltes. Les difficultés inévitables de la route. Une œuvre, c'est un enfant sacré qu'il est criminel de ne pas mener à terme. Elle est notre sang. Nous n'avons pas le droit de nous refuser à sa création. Nous lui devons toute notre force, toute notre âme, notre chair et notre esprit. Comme la mère qui meurt parfois de la chère créature qu'elle enfante, nous devons être prêts à mourir de notre œuvre si elle nous épuise. Et si elle ne nous a pas coûté la vie, eh bien, nous n'avons encore qu'une chose à faire, lorsqu'elle est achevée, vivante et forte, c'est d'en recommencer une autre. Et cela sans nous arrêter jamais. Toujours une œuvre après une œuvre, tant que nous sommes debout, dans notre intelligence et notre virilité.
Un extrait du travail de Zola, paru en 1901, un an avant sa mort. Qu'est-ce que ce texte nous dit, Philippe Minard, du regard qui est alors posé sur la création et plus largement sur la figure de l'inventeur au tournant du 19e et du 20e siècle ?
On a un bel exemple ici d'auto-héroïsation de l'auteur. Regardez comme je sue sang et eau, comme je souffre, mais je dois me dédier totalement à mon œuvre. Donc il y a l'héroïsation de l'effort, l'assimilation du travail intellectuel à l'effort physique, et sans que tout cela soit contradictoire avec la philosophie du génie et de l'inspiration. Je trouve ça remarquable comme définition de l'auteur ou de l'inventeur ou du créateur d'une façon générale. Et en fait, ça me fait penser C'est plus une sanctification du travail, en vérité, qu'une sanctification de l'invention. Mmh. Et ça me fait beaucoup penser à ce texte de Marx, dans lequel il explique que le travail est l'expression suprême de l'humanité. C'est par le travail, et quand il dit travail, il veut dire travail créateur. Et cela lève tous les contresens sur la critique de l'exploitation, etc. Le travail dont parle Marx dans cet extrait, qui a été cité par Dominique Méda et beaucoup repris depuis, alors qu'on l'avait un petit peu oublié, c'est l'expression de l'homo faber. C'est l'idéal de l'artisan du XVIIIe siècle, tel que Diderot le dépeignait dans l'Encyclopédie. C'est-à-dire, c'est le génie créateur de l'homme. Et c'est dans la création que l'homme se réalise. Alors évidemment, l'inventeur, il peut très bien embrasser ce discours et s'y retrouver. Et en quelque sorte, c'est un discours qui le flatte.
Du labeur et du génie dans la création à Gabriel Galvez-Béart.
Oui, sans doute, mais paradoxalement, au moment où Zola écrit ceci, eh bien, les choses, le génie créatif change, les conditions changent. C'est le moment où, dans les grandes entreprises internationales, eh bien, la recherche commence à être internalisée, où on commence à parler de travailleurs intellectuels, où les ingénieurs allemands se battent pour pouvoir conserver leurs droits sur leurs inventions et où ils finissent finalement par les perdre. Donc c'est certes une forme d'héroïsation, mais qui est peut-être en décalage avec le temps de Zola.
Tout à fait, ça veut dire que le capitalisme a fait son œuvre et que l'aliénation des créateurs est en marche.
La fin du 19e siècle, Gabriel Galvez-Béart, c'est aussi un moment où l'État cherche à apporter son soutien à la fois à l'industrie nationale, mais aussi aux démarches individuelles des inventeurs.
Oui, tout à fait. Alors en France, en particulier sur les démarches individuelles, parce que justement cet héritage de 1791 et ce sacre de l'inventeur individuel est toujours là. Mais vous avez raison, les choses changent. Par exemple, l'État s'investit pour enfin rendre accessible la publication des brevets par l'intermédiaire de la photographie, par exemple. Et c'est extrêmement important pour connaître finalement l'ensemble des connaissances techniques que charrient les brevets d'invention. Le brevet d'invention devient un élément stratégique, presque de politique économique, surtout lorsque on voit que l'Allemagne produit de plus en plus de brevets d'invention et les exporte, si je puis dire, dans le monde, ainsi que les États-Unis. Et on voit bien qu'au début du XXe siècle, eh bien, on change de logique et que les fondements individualistes de 1791 sont lointains, même s'ils conservent une certaine puissance rhétorique.
Et durant la Première Guerre mondiale, l'invention est placée au service de l'effort de guerre. Gabriel Galvez-Béart, ce qui était un encouragement de la part des pouvoirs publics devient une mise en œuvre directe.
Oui, alors mise en œuvre directe dans les deux sens, parce que c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez poignant. Les soldats au front font preuve d'activité inventive pour transformer leur quotidien, pour l'améliorer, mais aussi pour se battre, et font remonter des propositions d'invention. Et puis à côté de ça, il y a une mobilisation scientifique qui se met en place pour créer de nouveaux dispositifs techniques qui permettront la victoire. On a par exemple l'image du char d'assaut, en tout cas de ses prémices, et par exemple les travaux de Langevin sur le sonar qui naissent hein, de cette mobilisation scientifique, et tout ça témoigne du fait que on a changé quelque part de régime pour en ce qui concerne l'implication de l'État dans l'aide à l'invention.
Philippe Minard.
Il me semble que dans ce parcours à grandes enjambées de l'histoire de la propriété intellectuelle, on peut retenir une chose, c'est que il faut s'éloigner de toute absolutisation ou réification de la propriété. On voit que le droit français a connu des adaptations diverses, et au fond, je crois que si on accepte de ne pas hypostasier ou réifier la propriété, mais qu'on reconnaît que ce n'est pas une question de principe, mais une question d'opportunité, de contexte, de conjoncture, des adaptations sont toujours possibles et on peut réinventer, à l'heure où nous parlons des communs aujourd'hui, réinventer des régimes différenciés de propriété au-delà de l'utopie ou de l'impasse d'une propriété absolue qui déclenche la guerre de tous contre tous.
Vous nous entraînez déjà sur le chemin de la conclusion, Philippe Minard, votre avis sur ce point, Gabriel Galvez-Béart, et on va aller effectivement vers la conclusion de cette histoire de la propriété intellectuelle qui court du 15e siècle à nos jours.
Oui, se garder de toute absolutisation et surtout avoir présent à l'esprit le caractère, j'allais dire, structurellement contesté de la propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui est, si je puis me permettre, éternellement débattu. Et du coup, l'invention, la capacité d'invention des acteurs pour se saisir de certaines opportunités et au contraire pour en étouffer, si je puis dire, d'autres, eh bien, est extrêmement importante. La propriété intellectuelle est quelque chose d'assez vivant, en définitive.
Et vous êtes d'accord avec cette vision d'un État qui va s'engager de plus en plus dans la recherche scientifique et industrielle à partir du début du XXe siècle et tout au long du XXe siècle ?
Oui, un engagement, mais là aussi un engagement qui n'a rien de linéaire, qui dépend aussi d'opportunités ou de circonstances plus exactement très fortes, et notamment les guerres. Et puis tout ça, et c'est peut-être une chose sur laquelle il faudrait insister, hein, dans un contexte international, parce que les États se regardent, la France regarde l'Allemagne et les États-Unis ou la Grande-Bretagne s'inquiètent de la concurrence allemande, et donc l'engagement des États passe aussi par le souci des États d'assurer, si ce n'est leur primauté, en tout cas d'assurer une position de force dans la compétition qui les engage.
Les brevets sont une façon une possible démonstration de puissance de la part des États, Philippe Minard.
Oui, tout à fait.
On le voit encore aujourd'hui.
J'allais dire peut-être encore plus aujourd'hui. Il y a une véritable guerre mondiale sous-marine, si j'ose dire, qui n'est pas forcément très visible, ou disons qu'on aperçoit de temps en temps une partie émergée de l'iceberg, mais la question de la propriété intellectuelle est devenue le principal champ de bataille capitaliste aujourd'hui, à côté des affaires financières, bien sûr.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le budget italien adopté en Conseil des ministres hier, budget test pour les relations du nouveau gouvernement avec la Commission européenne, est crucial pour la relance de l'économie italienne.
Oui, ce sera un budget restrictif et un dialogue avec la Commission fructueux. Ce sont les termes du ministre des Finances italien Roberto Gualtieri, ministre de l'économie, hier au sujet de ce budget qui devrait avoisiner les 30 milliards d'euros et qui, sur le papier, réussit effectivement à éviter deux obstacles majeurs. D'abord l'austérité avec le renoncement à la hausse de la TVA et la conservation de certaines mesures sociales. Et puis éviter aussi une sortie des limites du pacte de stabilité européen avec là un déficit prévu à 2,2%, le même que la France. Ça avait été la cause de nombreuses crispations l'année dernière. La nouvelle coalition démocrate M5S se révèle donc prudente. Reste à compléter le renoncement à la TVA. C'est un manque à gagner de 23 milliards d'euros. Écoutez à ce sujet ce qu'en pense Francesco Saraceno, il est économiste à l'OFCE, spécialiste de l'Italie.
La chose principale, c'est qu'on devait éviter cette augmentation de la TVA qui était assez importante. En fait, il s'agissait de 23 milliards. Et il y a aussi une rationalisation, en fait, toute la partie dépenses, bonus écologiques, etc., qui va valoir 3 ou 4 milliards. Et donc, tout ça est la base. Et c'est vrai que l'augmentation de la TVA aurait eu un effet récessif de 0,2 points de PIB, on avait estimé ça. Et donc, du coup, on a une manque de récession, et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas restrictif, la manœuvre. Après, c'est pas franchement expansionniste non plus. Le déficit structurel reste plus ou moins constant. Il est en 0,1 plus élevé que dans l'ancienne loi des finances. Et on est en déficit à 2,2, donc plus ou moins constant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc moi, je dirais que comme on pouvait s'attendre, c'est une loi des finances qui est de passage entre deux approches différentes de politique économique et qui, pour le moment, stabilise la situation. Il n'y a pas de remise en cause fondamentale des anciennes mesures de la Ligue des 5 étoiles. Donc il n'y a pas de remise en cause de la quota 100 qui était une espèce de fenêtre pour des retraites anticipées. Il n'y a pas de remise en cause du revenu universel qui n'est pas universel du tout par ailleurs. Et je crois, mon hypothèse, c'est que les gouvernements se réservent de redéfinir des lignes de politique économique plus franchement différentes qu'à partir de 2020 en fait.
Peu de chances que la Commission européenne refuse ce budget cette fois. Reste à voir si la croissance revient. Le gouvernement l'a réévalué à 0,6% pour 2020.
Oui, et là, c'est une des inconnues. Certains l'estiment à moins, 0,2 ou 0,3%. D'autres, comme Francesco Saraceno, prévoient plutôt 1%. C'est une donnée cruciale alors qu'elle est à 0,1% pour cette année. À ce titre, une deuxième inconnue reste l'ampleur de ce Green New Deal, donc relance verte, hein, prévue aussi dans le budget mais non chiffrée. Le gouvernement pourrait demander à Bruxelles de ne pas compter ces investissements comme des dépenses budgétaires.
On passe au bref. Italie toujours, le nouveau pont de Gênes prend forme avec la pose aujourd'hui même de la première portion de route.
Oui, construction qui commence par le milieu avec ce segment de 50 mètres à 45 mètres de hauteur. Enjeu technique pour ce nouvel ouvrage d'art de plus de 1000 mètres, estimé à 202 millions d'euros après l'effondrement du précédent en août 2018. Enjeu économique aussi pour l'autoroute qui traverse la ville, axe économique stratégique pour l'Italie et en même temps aussi une plateforme de lancement et de démonstration pour le groupe de BTP italien Salini Impegrino, allié ici à Fincantieri, qui est en pleine augmentation de taille et qui vise à devenir rien moins qu'un géant européen avec un carnet de commandes prévu à 62 milliards d'euros. À titre de comparaison, Vinci, qui est le premier européen, c'est un carnet de commandes de 36 milliards, on en reparlera.
Le budget français pour 2020, cette fois Xavier, et les micro-entrepreneurs épargnés in extremis par une hausse de leurs charges.
Du moins, pas de publication du décret pour l'instant, dit le ministère du Travail au sujet de cette mesure qui devait réduire les exonérations de charges pour les ex-auto-entrepreneurs, actuels micro-entrepreneurs, exonération de 3 à 1 an. Donc, la décision prise sans concertation avait été dénoncée par une des organisations de micro-entrepreneurs, saluée par la Chambre des métiers et des artisans qui y voyaient une égalité de traitement avec leurs entreprises. Le gouvernement, lui, souhaite éviter un manque à gagner estimé à 1,4 milliard d'euros en 2022, dû à l'explosion du statut de micro-entrepreneur, 308 000 nouveaux l'année dernière. Les deux organisations sont reçues aujourd'hui au ministère du Travail.
Et on finit avec la croissance, ou plutôt des perspectives sombres selon l'Organisation mondiale du commerce, des prévisions de croissance du commerce fortement rabaissées.
Oui, une baisse de 2,6 à 1,2% pour le commerce mondial en 2019, plus que divisé par deux donc depuis avril. Preuve des dégâts des diplomatiquement nommés par l'OMC désaccords commerciaux en se fondant sur une croissance du PIB mondial lui aussi à la baisse, 2,3% cette année. Des perspectives décourageantes mais pas inattendues, écrit le directeur général de l'OMC Roberto Acevedo, qui pointe aussi une menace sur les investissements et les créations d'emplois.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à retrouver sur franceculture.fr et en podcast. À demain. What you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Switchblade coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, read them over, but your bitch is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it over. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me. Hey Now de Barry Moore. Merci beaucoup Gabriel Galvez-Béard et Philippe Minard de nous avoir accompagnés sur les pas des inventeurs à travers les siècles. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Lille qui ont permis ce duplex. Demain, on verra comment le numérique bouleverse la propriété intellectuelle et en particulier les droits d'auteur. Le nouveau partage de la valeur, on en parle en compagnie de Valérie Laure Benabou et Mélanie Clément Fontaine. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.